Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Une frappe aérienne détruit une école militaire à Tripoli. L'offensive lancée par le maréchal Haftar sur la capitale libyenne redouble d'intensité. Précision de Christian Chesneau. Et puis à la fin de ce journal, la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, s'attarde sur les rejaillissements de la guerre en Libye, en Algérie et en Tunisie. 52 sites iraniens dans le viseur de Donald Trump. Les États-Unis n'auront pas le courage de les prendre pour cible, réplique Téhéran. Que lire entre les lignes de ces menaces et échanges venimeux américano-iraniens? Décryptage d'Adrien Paluem. Également au sommaire, les premières mesures envisagées par la justice japonaise depuis la fuite au Liban lundi dernier de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, accusé de malversation. Précision de Frédéric Charles de RFI. Et puis en France, les enjeux d'une nouvelle semaine de lutte contre et de négociations sur la réforme des retraites. Depuis avril dernier, la ligne de front barre le sud de la capitale libyenne, le front où se font face les troupes du gouvernement d'Union nationale et celle de l'armée nationale libyenne que mène le maréchal Haftar, l'homme fort de la Cyrénaïque, qui ambitionne de prendre le contrôle de tout le pays. Dernier drame de cette guerre à laquelle se livrent indirectement nombre de puissances étrangères, le bombardement hier soir d'une école militaire de Tripoli. 28 morts selon un dernier bilan. Christian Chesneau.
Cette école militaire se trouve dans un quartier résidentiel de Tripoli, sous contrôle du GNA, le gouvernement d'Union nationale, dirigé par Fayez Sarraj. Au moment de la frappe, les cadets effectuaient leur dernier rassemblement de la journée dans la cour principale avant de regagner leur dortoir. Le GNA accuse les forces du général Haftar d'avoir mené ce bombardement. Depuis avril 2019, ce militaire, soutenu notamment par l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, tente de reprendre la capitale libyenne au Premier ministre Fayez Sarraj, qui est appuyé par le Qatar et la Turquie. Ankara, qui vient d'ailleurs de nouer une alliance avec le GNA, le Parlement turc a voté une motion cette semaine permettant au président Erdogan d'envoyer des troupes en Libye pour défendre le gouvernement de Fayez Sarraj. Une décision qui a suscité une grave inquiétude de l'Union européenne et conduit le président Donald Trump à mettre en garde Ankara contre toute interférence étrangère en Libye. En tout cas, cette nouvelle frappe vient alourdir un bilan humain déjà très lourd. Depuis l'offensive du général Haftar sur Tripoli, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU. Plus de 2000 combattants des deux camps sont morts dans les affrontements et près de 150 000 Libyens ont été déplacés.
Et dans sa face cachée du globe, Nabila Hamel propose en fin d'édition d'évoquer les conséquences de cette guerre sur deux pays voisins de la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Au Kenya, les miliciens du groupe islamiste somalien des Shebab ont lancé à l'aube une attaque contre une base militaire opérée par les forces américaines et kenyanes à Lamu, dans le nord du pays, près de la frontière somalienne. Présents en Somalie, les États-Unis y ont d'ailleurs intensifié depuis avril 2017 leurs frappes aériennes après l'extension par Donald Trump des pouvoirs donnés à l'armée américaine pour lancer des opérations antiterroristes. Le président américain, qui encore et toujours menace l'Iran de nouvelles frappes, précisément sur 52 sites, non sans souligner que le nombre de 52 correspond au nombre d'Américains qui avaient été retenus en otage pendant plus d'un an à partir de la fin de 1979 à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Réplique du régime iranien qui doute, je cite, que les États-Unis aient le courage de frapper l'Iran. Deux jours après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, escalade verbale caractérisée. Bonjour Adrien Paluem.
Bonjour.
Adrien, nul ne serait à même d'en entrevoir l'issue.
Oui, les Iraniens et les Américains sont entrés dans une phase d'intimidation. L'objectif est d'impressionner l'adversaire, une gesticulation de force expliquée par François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique.
Les Iraniens veulent montrer qu'ils ont une capacité de nuisance qui est considérable, avec de très nombreux moyens, avec des possibilités de cibles dans la région, qui sont aussi bien des troupes américaines basées au sol que des unités navales qui sont déployées dans la zone d'Hormuz. Côté américain, l'intérêt, c'est d'essayer de prévenir par l'intimidation des attaques iraniennes.
La question n'est donc pas de savoir si les Iraniens vont riposter, mais plutôt quand et avec quelle intensité. Et ce sera probablement à travers leur réseau d'influence dans la région.
Le conflit va se développer de manière très certaine sur le plan régional et donc il va engager d'une part l'Iran et l'ensemble de ses alliés dans la région, c'est-à-dire les forces populaires des milices irakiennes en Irak, et d'autre part le Hezbollah sur le théâtre libanais. Avec cela, les Iraniens peuvent espérer infliger des coups assez durs aux États-Unis sans, naturellement, tomber dans la guerre générale.
La manœuvre américaine en Iran semble donc hasardeuse et elle pourrait mener à une guerre généralisée dans la région.
En tuant Soleimani, un seuil irrévocable, irréversible a été franchi et donc maintenant on est dans une logique complètement différente de celle dans laquelle on se trouvait au moment, par exemple, où il y avait la confrontation au niveau des tankers dans le détroit d'Hormuz ou même les tirs de missiles iraniens sur les installations saoudiennes. On ne voit effectivement pas quel est l'intérêt immédiat des États-Unis de se lancer dans cette aventure.
Aujourd'hui démarre en Iran le premier des 3 jours d'hommage national rendu au général Soleimani.
Merci à vous, Adrien Palluet. Le Parlement irakien se réunit aujourd'hui pour décider du sort à réserver aux 5200 soldats américains déployés en Irak, session qui pourrait conduire au départ de ces troupes du pays, probablement suivie par l'ensemble des troupes étrangères de la coalition anti-djihadiste emmenée par Washington. 6 jours après l'arrivée à Beyrouth de Carlos Ghosn, quantité de rumeurs circulent au sujet du dispositif imaginé, des équipes mobilisées, des escales envisagées pour ficeler la fuite de l'ancien patron de Renault-Nissan. Ces rumeurs qui n'ont pas droit de citer au Japon. Le Japon qui, après une phase de sidération, promet de tirer des enseignements de ce fâcheux événement avec ce matin les premières déclarations officielles de hauts responsables de la justice. C'est une correspondance de Tokyo de Frédéric Charles de Radio France Internationale.
Pour la première fois depuis la fuite de Carlos Ghosn au Liban, les autorités japonaises sortent de leur silence pour dire qu'il aurait eu droit à un procès équitable, mais qu'il a rompu la promesse qu'il avait faite de rester dans le pays pour se défendre. Il a fui pour échapper à la punition de ses propres crimes, déclare Takahiro Saito, l'adjoint du procureur de Tokyo. Les procureurs japonais rappellent qu'ils étaient opposés à sa libération sous caution, car Carlos Ghosn avait d'abondantes ressources financières et de nombreux points de chute à l'étranger. Durant sa détention, le tribunal de Tokyo a découvert que Carlos Ghosn a essayé d'entraver la justice en se servant de sa femme Carole comme intermédiaire pour influencer des témoins potentiels. Les conditions de sa libération sous caution n'étaient donc pas aussi draconiennes que le dit l'accusé, ajoute l'adjoint du procureur de Tokyo. Un des avocats de Carlos Ghosn déclare comprendre la fuite de son client, provoquée selon lui par l'extrême sévérité du système judiciaire japonais. Les circonstances de son départ de Tokyo restent floues. Carlos Ghosn nie toutes les accusations portées contre lui.
En France, 32e jour de grève contre la réforme des retraites avec à venir une semaine de mobilisation riche en appels à la manifestation. Un conseil des ministres que réunit demain le président de la République et une reprise des négociations mardi à Matignon. Négociations que dit aborder avec confiance le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, malgré, ajoute-t-il, s'il s'agit de Didier Matisse, le gros point d'achoppement que constitue l'âge pivot, Cyril Gradiani.
Sortir de la crise pour mieux entrer dans cette nouvelle année. C'est certainement un des vœux que pourrait faire l'exécutif. Après un mois de grève contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron réunit demain le premier conseil des ministres de 2020. Le gouvernement lui présentera ses vœux. Juste avant, ses ministres, comme le veut la tradition, se seront réunis au ministère de l'Intérieur pour un petit déjeuner de travail avant de parcourir à pied les 50 mètres qui séparent l'hôtel Beauvau du palais de l'Élysée. Alors comment sortir d'un conflit où chacun campe sur ses positions? Comment trouver un compromis rapide avec les syndicats qui le veulent? Mission confiée par le chef de l'État, Édouard Philippe. Ce conflit ne peut plus durer, explique ce matin Bruno Le Maire dans le JDD. Les principaux dirigeants de gauche, eux, dans une tribune, demandent encore le retrait de la réforme. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Laurent Berger, invité du 20h de France 2. Chaque camp fourbit ses armes. Nouveau round d'observation avant cette semaine qui est décisive, pas seulement pour la réforme des retraites, mais surtout pour la suite du quinquennat.
Selon le premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo annoncera l'extension de la gratuité des transports en commun pour tous les Parisiens de moins de 18 ans si elle devait être réélue en mars prochain. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Les Boliviens, de nouveau convoqués aux urnes le 3 mai prochain pour élire leur président. Il y a 6 mois, l'élection controversée du président sortant Evo Morales avait déclenché une révolte qui l'a contraint à démissionner. Il s'est réfugié en Argentine et la présidence par intérim est assurée par la sénatrice de droite, Jeanine Agnès. La guerre qui oppose l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos à son successeur João Lourenço a repris de plus belle en Angola. Le tribunal de Luanda a ordonné lundi le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos dans plusieurs entreprises angolaises. La fille de l'ancien chef de l'État, considérée comme une des femmes les plus riches d'Afrique, est soupçonnée d'avoir détourné plus d'un milliard de dollars d'argent public. Avant de céder le pouvoir, son père l'avait nommée à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Son demi-frère a lui été évincé de la direction du fonds souverain angolais et est jugé depuis un mois pour détournement de fonds. Vous parliez, Mathieu, des affrontements militaires en Libye. C'est certes un grand sujet d'inquiétude pour les Libyens qui ne voient toujours pas l'ombre d'une réconciliation nationale. Mais c'est également une grande préoccupation pour deux pays voisins qui ont opté pour une position de neutralité face à ce conflit. L'Algérie, dont l'armée est déjà mobilisée dans la lutte antiterroriste, notamment sur ses frontières avec le Sahel et avec la Tunisie, craint des débordements, comme nous l'explique Hasni Abidi.
Les craintes de l'Algérie sont largement justifiées. Signe de cette préoccupation, la réunion du Haut Conseil de la Sécurité pour exprimer d'abord l'inquiétude de l'Algérie, et ensuite prendre des mesures importantes sur le plan sécuritaire et militaire et probablement politique pour faire face à cette nouvelle situation. La Libye constitue une profondeur stratégique pour l'Algérie. 800 km entre l'Algérie et la Libye, sans oublier bien sûr des intérêts économiques très importants. Avec la nouvelle situation en Libye, l'Algérie se trouve coincée entre une doctrine dogmatique de sa politique étrangère qui exclut toute présence militaire de l'armée algérienne en dehors de ses frontières, et en même temps elle voit bien que les conséquences sécuritaires et militaires d'une nouvelle situation de conflit en Libye risque de toucher le territoire algérien ou avoir d'autres conséquences que va subir l'Algérie. C'est pourquoi il y a un travail, malgré la situation intérieure un peu compliquée, de la part du ministre des Affaires étrangères, mais aussi de la part des militaires en charge de dossiers libyens, de trouver une nouvelle approche, à la fois diplomatique, mais aussi militaire, pour faire face à la nouvelle situation en Libye que finalement l'Algérie n'a pas réussi à anticiper.
Oui, et une situation rendue compliquée par les ingérences étrangères en Libye. Comment Alger se positionne sur ce plan ?
La position officielle de l'Algérie est opposée à la présence de forces étrangères, sans nommer bien sûr la Turquie, mais l'allusion faite aussi à d'autres formations ou à d'autres États.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, basé à Genève. Autre pays qui a toutes les raisons de craindre les conséquences de la crise libyenne, c'est la Tunisie, d'où nous appelle Maureen Mercier.
La Tunisie observe, s'inquiète forcément, avec plus de 550 km de frontières commune avec la Libye. Les secousses libyennes résonnent plus que n'importe où ailleurs ici, en Tunisie. Les autorités tunisiennes n'ont pas attendu l'éventuelle intervention militaire turque. Elles ont procédé mi-décembre à un large déploiement militaire le long des frontières avec la Libye, au moment où l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, annonçait lancer l'attaque finale pour s'emparer de Tripoli, la capitale. Les autorités observent, agissent, mais elles se gardent bien de prendre parti. Elles connaissent bien le voisin libyen et savent combien il est totalement contre-productif de tenter de s'immiscer dans ce conflit. Tunis craint en fait surtout un afflux massif de citoyens libyens fuyant la guerre, comme en 2011, afflux dans lequel pourraient s'infiltrer des terroristes. Depuis la chute de Kadhafi, la Tunisie fait face à ce casse-tête qui pourrait encore se compliquer aujourd'hui, empêcher les terroristes de pénétrer sur son territoire et d'y commettre des attentats. Des terroristes libyens, mais aussi tunisiens, partis ces dernières années rejoindre les troupes de Daesh, toujours active en Libye.
L'énergie éolienne a représenté 47%, soit près de la moitié de l'électricité consommée en 2019 au Danemark, un record qui s'explique par la réduction des coûts et l'amélioration de cette technologie adoptée par Copenhague dans les années 70. Si on y ajoute le solaire, la part des énergies renouvelables a atteint 50% du mix énergétique l'an dernier dans ce pays. Du coup, il domine largement le classement européen, loin devant l'Irlande, qui en est à 28%. À dimanche prochain.
Merci. à vous, à dimanche prochain. Quelques mots de la météo de l'après-midi, du soleil des Alpes au bord de la Méditerranée, grisaille tenace au nord, le Mistral et la Tramontane atteindront 100 à 110 km/h dans la vallée du Rhône. Les maximales, les températures maximales atteignent 6 à 10 degrés en général, 15 à 18 autour de la Grande Bleue ainsi qu'en Corse. Ce journal a été préparé avec François-Charles Demergue, à la technique Alex Dang.